Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Nous prions Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations. Le même Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous, au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, donc dans le Polycopier, nous en sommes à la page 38. Nous allons, si Dieu veut, terminer aujourd'hui le commentaire des Pères de l'Église sur l'évangile selon saint Matthieu. Nous en sommes au verset 8 du chapitre 28. Donc les saintes femmes, il s'agit de sainte Marie-Madeleine et de Marie-Cléophas ou de Marie-Salomé, c'est pas très bien. Elles sortirent aussitôt du sépulcre avec crainte et avec une grande joie après avoir vu l'ange. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Rappelez-vous, l'ange leur avait dit allez voir les disciples pour les avertir qu'ils verront notre Seigneur. Et voici que Jésus vint au-devant d'elles, en disant « Je vous salue ». Elles s'approchèrent et embrassèrent ses pieds et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit « Ne craignez point. Allez dites à mes frères de partir pour la Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Et donc on voit la même chose, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ d'abord apparaît aux femmes à cause de leur fidélité. Pendant la Passion, les hommes, les apôtres avaient tous abandonné notre Seigneur, mais les saintes femmes avaient plus de cœur, même si elles avaient toutes perdu la foi, dans le sens que toutes avaient oublié ce qu'avait dit notre Seigneur Jésus-Christ plusieurs fois, à savoir qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour. Même sainte Marie-Madeleine, qui gardait un amour extraordinaire pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour elle, notre Seigneur Jésus-Christ était mort. Donc elle avait oublié cet avertissement, notre Seigneur, plusieurs fois, il l'avait dit, pas qu'une fois, mais plusieurs fois. Le troisième jour, je ressusciterai entre les morts. Ça, elles ont oublié. Donc, il nous apprend ainsi qu'il va, par sa grâce, au-devant de ceux qui commencent à marcher dans la voie des vertus, leur donne de parvenir au salut éternel. Donc, notre Seigneur va s'occuper d'abord de ceux qui ont été fidèles. Bon, il aide aussi après les apôtres qui, eux aussi, ont perdu la foi dans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, aussi oublié, mais notre Seigneur s'adresse d'abord à ceux qui ont été fidèles jusqu'au bout, à savoir les femmes. Les femmes parmi les saintes femmes qui le suivaient. Donc, Saint Jérôme dit que les femmes sont les premières qui méritèrent d'entendre cette parole, le salut soit avec vous, le salut soit à vous. Et nous sommes ainsi affranchis dans la personne des femmes de la malédiction courue par Ève, la première femme. C'est-à-dire, de même que c'est une femme qui a amené la malédiction sur le monde, puisque c'est Ève qui a commencé par désobéir à l'ordre de Dieu, qui avait interdit de toucher le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et bien de même, le salut va venir par une femme, la très sainte Vierge Marie, la nouvelle Ève, qui va rattraper la prévarication de la première Ève. Et après la résurrection, notre Seigneur Jésus-Christ, donc c'est auprès d'une femme, justement, que notre Seigneur Jésus-Christ, auprès des femmes, que notre Seigneur Jésus-Christ va apparaître. Et ces femmes qui vont recevoir les premières visites de notre Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, pour bien montrer que la malédiction de la première femme est effacée par l'incarnation et le mystère de la rédemption. Donc nous voyons dans ces femmes, ici les apôtres, les pères parlent des saintes femmes, donc sainte Marie-Madeleine, Marie-Cléophas, Marie-Salomé, nous voyons dans ces femmes une figure parfaite de l'Église, car en s'adressant à ses disciples, Jésus-Christ leur reproche leurs doutes et les rassure contre les appréhensions, tandis qu'en venant au-devant de ces saintes femmes, Il ne les effraie pas par le spectacle de sa puissance, mais les prévient par l'ardeur de sa charité, car c'est à lui-même qu'il souhaite le salut dans la personne de l'Église, avec laquelle il ne fait qu'un seul corps. Vous voyez, on voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ unit en quelque sorte son corps physique et son corps mystique. Le corps physique, c'est celui que lui a donné notre Sainte Vierge Marie. Le corps mystique, c'est l'Église. Et Notre-Dame est pas simplement mère. Pardon. Notre-Dame n'est pas simplement mère du corps physique de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est aussi mère de son corps mystique. Elle est mère de l'Église. Donc, n'oubliez pas que c'est un des plus importants titres de gloire de notre Sainte Vierge. Elle est Mater Ecclesiae. Elle est mère de l'Église. Alors, d'autres phrases des pères de l'Église, au milieu de la page 38 sur le polycopier, il est ressuscité sans ouvrir son tombeau pour nous apprendre que ce même corps qui avait été déposé après sa mort dans un tombeau fermé était revêtu d'immortalité. On retrouve la même image que j'ai longuement commentée la dernière fois, le dernier cours. Donc, la comparaison entre le saint de notre Sainte Vierge Marie qui contient le corps de notre Seigneur Jésus-Christ et le tombeau qui contient le corps mort de notre Seigneur Jésus-Christ au Vendredi Saint, et de même que notre Sainte Vierge, que notre Seigneur Jésus-Christ est sorti victorieux du tombeau du tombeau, si vous voulez, symbolique du Saint de notre Sainte Vierge Marie, le jour de la fête de Noël, mais de la même façon, notre Seigneur Jésus-Christ va aussi sortir victorieux du tombeau matériel, cette fois-ci, qui a contenu son corps pendant 36 heures, du Vendredi Saint au jour de Pâques. Il y a évidemment une autre comparaison, on peut continuer dans ces comparaisons. Bien, notre âme en état de grâce représente aussi ce tombeau. Notre Seigneur Jésus-Christ, malgré les apparences, doit être ressuscité dans notre cœur. Il vit dans notre cœur comme dans un tombeau dans lequel il reste, mais il est Dieu. Même si on ne voit pas sa divinité, il est Dieu. Attention. Ces femmes tiennent à embrasser les pieds de Jésus-Christ parce qu'elles sont dans l'Église la figure de la prédication évangélique, qu'elles ont mérité cet honneur par leur pur empressement. Elles étreignent ainsi par la foi les pieds de leur Sauveur pour obtenir l'honneur de connaître la divinité tout entière. Donc, comme elles ont été fidèles, elles sont récompensées par cette proximité avec notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, un peu bizarre. Et encore, il y a beaucoup de mystères, hein, des choses qu'on ne comprend pas forcément toujours dans l'Évangile. On comprendra ces choses beaucoup plus parfaitement au ciel. Là, on voit que les saintes femmes peuvent embrasser les pieds de notre Seigneur. Mais dans un autre Évangile, on verra ça plus tard avec les autres Évangiles, c'est que chaque Évangile va expliquer certaines apparitions après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ qui ne sont pas les mêmes pour tous les Évangiles. Et dans un autre évangile qu'on verra plus tard, eh bien, lorsque Sainte Marie-Madeleine a vu quand elle était seule, elle a vu notre Seigneur Jésus-Christ qu'elle n'a pas reconnu, eh bien, elle a voulu se jeter à ses pieds, et là, notre Seigneur l'a arrêté en lui disant « Ne me touche pas ». Et là, c'est différent, voyez, le cas est un petit peu différent. Une autre apparition où Sainte Marie Madeleine voit notre Seigneur, mais cette fois-ci elle n'est pas seule, elle est avec une des autres saintes femmes, et cette fois-ci elle peut embrasser les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, celle au contraire, disent les pères, qui sur la terre pleure le Seigneur et qui cherche comme mort dans le sépulcre celui dont elle ne sait pas qu'il règne dans les cieux avec son Père, entend de sa bouche ces paroles « Ne me touchez pas ». Donc ici, il semblerait que les pères disent que si on manque de foi, eh bien notre Seigneur Jésus-Christ nous arrête dans nos effusions à son égard « Ne me touche pas ». Par contre, si la foi est très forte, il nous laisse embrasser ses pieds, c'est le verset 9. Elles s'approchèrent, embrassèrent ses pieds et l'adorèrent. Et donc, quand nous approchons notre Seigneur Jésus-Christ, si notre Seigneur Jésus-Christ ne se laisse pas toucher tout de suite, il place sa main devant nous en disant « Ne me touche pas », il ne faut pas se décourager, il ne faut pas désespérer, parce qu'il va revenir, et cette fois-ci, si nous sommes plus mieux disposés, si notre cœur est plus ouvert à la grâce, cette fois-ci, il nous laissera embrasser L'épître sacrée de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas que chaque âme est différente et même le travail de la grâce dans l'âme de chacun d'entre nous est complètement différent, même pour une même personne. Le bon Dieu sait ce qu'il nous faut. Parfois, il va donner du sucre, parfois, il va donner du sel. Quand la personne est un peu découragée, il va donner un peu de sucre. Si la personne risque de tomber dans l'orgueil, il va donner plus du sel ou du poivre. Mais notre Seigneur Jésus-Christ s'occupe des âmes. On voit très bien que les apparitions sont différentes pour chaque personne. Il y a quand même une chose qui est très importante, c'est qu'on voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ, même s'il apparaît à ses disciples, à ses apôtres, aux saintes femmes, il va quand même donner un châtiment, certaines formes de châtiment, à certains pour leur manque de foi. On voit très bien ça, c'est dans un autre passage de l'évangile, d'autres évangiles. Par exemple, on voit ça dans l'évangile où Sainte Marie-Madeleine vient au tombeau et elle cherche notre Seigneur Jésus-Christ. Elle ne sait pas encore qu'il est ressuscité. Elle va trouver un homme dans le jardin, elle croit que c'est le jardinier. En fait, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et on voit très bien, Sainte Marie-Madeleine ne reconnaît pas notre Seigneur Jésus-Christ. Elle ne le reconnaît pas à cause de son manque de foi. On voit la même chose dans l'apparition des disciples d'Emmaüs. Saint-Luc et Saint-Cléophas qui allaient sur Emmaüs complètement découragés après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Eux aussi avaient perdu la foi, avaient oublié que notre Seigneur devait ressusciter d'entre les morts. Et notre Seigneur Jésus-Christ s'approche d'eux, leur demande « Mais de quoi parliez-vous? Vous avez l'air tout triste, qu'est-ce qui se passe ?» Et les disciples ne reconnaissent pas encore une fois notre Seigneur. Ils ne le reconnaissent pas, bien qu'ils l'aient connu bien fortement auparavant. Ils ne reconnaissent pas encore une fois à cause de leur manque de foi. Et notre Seigneur Jésus-Christ va leur reprocher ce cœur froid. Vous au cœur lent à croire, vous au cœur tiède, vous au cœur froid. Et il va leur expliquer pourquoi il était nécessaire qu'il passât par la passion. Et c'est simplement au moment où il va faire mine de s'éloigner, prendre une autre route. Oh non, restez avec nous, restez avec nous. Et à ce moment-là, notre Seigneur va rentrer à l'hôtellerie avec ses deux disciples. Et là, il va commencer les paroles de la Sainte Messe. Et c'est à ce moment-là que leurs yeux vont s'ouvrir, qu'ils vont reconnaître notre Seigneur. Oui. Et un autre cas aussi, avec les apôtres, après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, donc ils vont pêcher pour pouvoir avoir quelque chose à manger, et puis ils passent toute la nuit à pêcher dans le lac, et ils ne trouvent rien, pas un poisson. Eh bien, lorsqu'ils reviennent complètement découragés au petit matin, après avoir passé une nuit blanche à travailler sans rien obtenir, bon, il y a un homme sur le rivage qui les appelle. Est-ce que vous avez du poisson? Non, ils n'ont rien. Et ils répondent un peu vexés. Non, nous n'avons rien. Et notre Seigneur va faire un miracle magnifique. Il va leur dire, mais jetez donc le filet là, sur le côté de la barque à droite et vous trouverez du poisson. Et Saint-Pierre a dû se faire tirer l'oreille parce qu'il ne voulait pas le faire. Il dit, mais il n'y a pas de poisson là, l'eau est trop chaude, il n'y a pas assez de fond. Et Saint-Jean lui dit, mais on n'a rien à craindre, on n'a rien à perdre parce qu'on n'a rien eu. Et encore une fois, ils ne reconnaissent pas cet homme qui est sur le rivage, et c'est lorsque la pêche miraculeuse s'accomplit, quand le filet se remplit miraculeusement de 153 gros poissons, le texte est très précis, il donne le nombre de poissons, c'est à ce moment-là que Saint-Jean, c'est lui, qui va reconnaître notre Seigneur, reconnaît, ouvre les yeux, c'est notre Seigneur. Voyez, donc c'est un peu une leçon pour chacun d'entre nous. Si nous manquons de foi, nous ne reconnaissons pas notre Seigneur Jésus-Christ. On passe à côté de lui sans le voir. Alors que notre Seigneur Jésus-Christ est près de nous tout le temps, pas simplement par son ange gardien, mais aussi près de nous, et même en nous, surtout par la Sainte Communion. Mais souvent, on ne voit pas qu'il est juste à côté de nous, qu'il est juste en nous par la Sainte Communion. La Sainte Communion est aussi d'une certaine façon par la grâce sanctifiante. Par la grâce sanctifiante, notre Seigneur Jésus-Christ est aussi dans notre âme, et souvent on ne le voit pas. À cause de notre manque de foi, notre manque d'espérance, notre manque de charité, les yeux de nos âmes sont fermés, nous avons une espèce d'aveuglement spirituel, et on ne reconnaît pas notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut méditer justement sur ce manque de foi qu'on trouve chez tous les apôtres. Même Saint-Pierre, même Saint-Jean, l'apôtre que Jésus aimait, ont oublié que notre Seigneur devait ressusciter d'entre les morts. Alors, en bas de la page 38 sur le polycopier, chaque fidèle doit être attentif à rechercher dans quel dessein mystérieux le Seigneur commande, et par l'ange et par lui-même à ses disciples d'aller pour le voir, non pas dans l'endroit où il devait d'abord se manifester, mais dans la Galilée où il a été vu plus tard. Pourquoi? Parce que le mot Galilée, disent les pères, signifie à la fois transmigration et révélation. Or, que nous donne à comprendre la première signification, si ce n'est que la grâce de Jésus-Christ devait passer du peuple d'Israël aux gentils, auxquels les apôtres n'auraient jamais confié le dépôt de la prédication évangélique si le Seigneur lui-même ne leur avait préparé la voie dans le cœur des hommes. Donc, allez, vous le verrez en Galilée. Bon, les pères disent que c'est le symbole aussi de ce changement, en quelque sorte, de peuple élu, le peuple primitivement élu par notre Seigneur Jésus-Christ, le peuple de l'Ancien Testament, le peuple juif, refuse notre Seigneur Jésus-Christ, le fait crucifier, et donc notre Seigneur Jésus-Christ va transmigrer, la transmigration, il va passer à un autre peuple. Et cet autre peuple, c'est nous, avec la grâce du bon Dieu. À la fin des temps, le texte sacré nous avertit qu'il y aura également la conversion, au moins d'une partie du peuple juif, pour que les places au paradis soient toutes occupées. Donc celui qui cherche Jésus avec ferveur le trouve, qui vient avec amour à sa rencontre. Selon ses paroles, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Et Saint Jérôme dit, celle qui vient ainsi, qui court, mérite de voir le Seigneur ressuscité venir à elle et d'entendre ce mot, Ave, je vous salue. Et la malédiction de la première femme sera enlevée en elle. On voit très bien que le bon Dieu pardonne toutes nos ingratitudes. Il les pardonne tout de suite. Il a entendu Saint-Pierre le trahir 3 fois. Bon, les apôtres ont perdu la foi, les saintes femmes ont aussi perdu la foi, mais notre Seigneur Jésus-Christ pardonne dès qu'il voit en notre âme le tout petit début de bonne volonté. Vous savez qu'il ne faut jamais se décourager, même après le péché. Parfois, on voit des gens qui nous disent, mais Monsieur l'abbé, je ne me suis pas confessé pendant 20 ans, pendant 30 ans, c'est fini, c'est terminé, c'est trop tard. Non, c'est jamais trop tard. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais monsieur l'abbé, je ne sais même plus me confesser, je n'ai pas communié depuis des années et des années, je vis n'importe comment, je méprisais notre Seigneur, j'ai commis péché sur péché, qu'est-ce que je fais? On se met à genoux. On se met à genoux, et puisque un long voyage commence par le premier pas, et bien vous allez commencer par dire tout simplement cette petite phrase magique, bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché, si vous êtes catholique. Et je vais vous aider à faire une bonne confession générale. Mais monsieur l'abbé, ma dernière confession, c'était il y a 40 ans. Eh bien, on va reprendre 40 ans de péché. Mais ça va prendre du temps. On prendra le temps pour ça. Mais j'ai oublié, vous inquiétez pas. Le bon Dieu, lui, n'a pas oublié. Et ce qu'il veut, c'est que vous regrettiez vos péchés. Mais je n'en avais plus de nombre. C'est pas grave. L'important, ce qui compte, c'est la contrition. Est-ce que vous avez la contrition? Est-ce qu'il y avait un regret interne, un souverain, un regret universel, un regret surnaturel de vos péchés? Est-ce que vous avez un ferme propos de ne pas recommencer? Est-ce que vous allez prendre les moyens pour ne pas garder des occasions prochaines volontaires de péchés graves? Est-ce que vous êtes décidé à accuser vos péchés autant que vous en rappelez? Avec le nom, l'espèce, les circonstances, que vous êtes décidé à réparer vos fautes autant que faire se peut? Ah ben oui, monsieur l'abbé, je vais essayer. Très bien, à ce moment-là, le bon Dieu pardonne. Comme il a pardonné à Sainte Marie-Madeleine, allez en paix, vos péchés sont pardonnés. Mais c'est ce que vous dit notre Seigneur Jésus-Christ après l'absolution du prêtre. Et le prêtre va vous pardonner, au nom, le bon Dieu pardonne, utilisant le prêtre comme un instrument. C'est magnifique. Pour nous, c'est une très grande joie pour un prêtre. Parfois, ça m'arrive souvent en retraite d'avoir des gens qui ne sont pas confessés, parfois pendant 30, 40 ans. Qui viennent faire les exercices Saint-Ignace, qui se convertissent avec la grâce du bon Dieu complètement pendant les exercices Saint-Ignace, et puis ils arrivent avec une liste impressionnante de péchés pour la confession générale, le troisième jour de la retraite, en général c'est le mercredi. Et puis le prêtre pardonne, je vous absous de tous vos péchés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et tous les péchés disparaissent. Et l'âme de cet homme qui était chargé d'horribles péchés mortels, bien devient comme l'âme d'un petit bébé, toute pure. C'est ça qui est magnifique.
Et donc, par l'absolution, la malédiction du premier homme, ou de la première femme, Adam et Ève, est enlevée. Et nous retrouvons la grâce du bon Dieu. Alors, voyons la page 39 maintenant, dans le sens anthropologique, c'est-à-dire le sens moral, pour chacun d'entre nous. C'est Rabban Mort qui parle. Jésus parfois rencontre ceux qui entrent dans le sentier de la vertu en les aidant. Ève est la mère de la perdition et de la douleur. Mais ces femmes, au lieu du mot Eva, entendent le mot Ave, parce qu'elles sont les messages et messagers de la résurrection, du salut, de la joie. Bon, c'est un jeu de mots que font les pères d'Église. Beaucoup le font. Il faut remarquer que la première femme, celle qui a amené le péché originel, s'appelait Ève, Eva en latin, E-V-A, et que la Troisième Vierge Marie, qui est la nouvelle Ève, eh bien, elle est introduite dans l'Écriture sainte par les mots Ave, Ave Maria, gratia plena, je vous salue Marie, parce qu'elle est justement la messagère, l'intermédiaire qui va nous donner le moyen d'effacer les conséquences du péché originel d'Adam et Ève. Dites donc aux apôtres, qui sont les enfants de l'un et même l'un et même Dieu et Père avec moi, qui sont les fils adoptifs par la grâce, que je suis son fils par nature, par la divinité que j'ai reçue de lui comme Dieu, par l'union hypostatique avec la divinité que j'ai reçue de lui comme homme. Donc en acceptant cette nouvelle Ève qui nous amène notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sainte Vierge Marie, qui est pour cela comparé par les pères à un aqueduc, à un pont, qui nous met en contact avec l'auteur de la grâce, notre Seigneur Jésus-Christ, en acceptant d'utiliser cette nouvelle Ève, eh bien, nous allons effacer les conséquences du péché originel, au moins pas toutes, parce qu'il y a les blessures du péché originel qui restent, mais au moins on va retrouver la paix avec notre Seigneur Jésus-Christ par l'intermédiaire de notre Sainte Vierge Marie, puisque c'est par elle que toutes les grâces de la résurrection nous sont transmises. N'oubliez pas que l'auteur de la grâce, ce n'est pas la Sainte Vierge, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il utilise sa mère comme l'intermédiaire pour nous donner les grâces. Les grâces passent par elle. Elle est médiatrice de toutes les grâces. Comme une femme fut la cause de la douleur pour l'homme, ces femmes sont maintenant les ministres de la joie pour les hommes. Le déploiement de l'Église, ce n'est pas simplement fait par les ministres de notre Seigneur Jésus-Christ, par les prêtres, par les clercs. Les déploiements de la foi catholique au début de l'histoire de l'Église s'est fait aussi par les femmes. Beaucoup de femmes ont été l'intermédiaire de la conversion de tout un peuple. Pensez par exemple à Sainte Clotilde qui obtient la conversion de son mari, le roi Clovis, et qui amène Clovis au baptême. Et en amenant Clovis au baptême, en 496, pour la nuit de Noël, eh bien, Sainte Clotilde devient la mère de la conversion de tout le pays. Avec le baptême à Noël par Saint Rémy, non seulement de Clovis, mais de plusieurs milliers de soldats de Clovis, qui prennent les eaux du baptême, eh bien, c'est la conversion de la France qui commence. La France qui va devenir fille aînée de l'Église, grâce à cette femme. Regardez aussi toute l'influence de cette Sainte Hélène, par exemple la maman du roi Constantin, l'empereur Constantin, premier empereur à se convertir au christianisme, s'est converti au christianisme sous l'influence de sa mère, Sainte Hélène. Voyez par exemple toute l'influence de Sainte Monique pour obtenir la conversion de Saint Augustin, des plus grands docteurs de l'Église. On dit que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. C'est sans doute vrai. Et donc souvent, il y a une mère ou une grand-mère qui est là, qui va prier pour obtenir notre conversion. Donc ayons cette dévotion pour la plus grande des femmes jamais créées par le bon Dieu, à savoir sa mère, notre Sainte Vierge Marie. Alors Luther, une petite note ici, je ne sais plus où j'ai trouvé ça. Luther conclut faussement à partir de ces mots du Christ que les femmes peuvent prêcher. Mais c'est une chose de dire, c'est une autre de prêcher. Si le Christ avait voulu que Madeleine prêche, il lui aurait dit prêcher. Donc, selon le mot de saint Paul, les femmes ont un autre rôle. Donc il faut reconnaître que les femmes ont un rôle fondamental dans l'Église. Encore une fois, la plus grande sainte au ciel, c'est une femme, n'oublions pas. La femme apporte quelque chose que l'homme n'apporte pas. C'est la même chose dans une famille. Bon, dans l'Église catholique, la femme a un rôle qui n'est pas celui de l'homme, qui sont des rôles différents. Et tous ces deux rôles sont nécessaires, comme dans une famille. La femme et l'homme sont différents, ne sont pas égaux, sont complémentaires. L'homme amène quelque chose que la femme n'est pas capable d'amener, et la femme amène quelque chose que l'homme n'est pas capable d'amener. Donc il faut l'association entre la tête qui est représentée par l'homme et le cœur qui est représenté par la femme, et à ce moment-là, la famille est équilibrée. On voit très bien aujourd'hui le travail de sape fait par la Révolution, les enfants de la Révolution, pour détruire justement cette loi naturelle et ainsi détruire la famille. Donc il est très important que les femmes qui m'écoutent, ici sur le site de Dame Marie, donc qui écoutent ces cours, se rendent compte qu'elles ne doivent pas avoir honte d'être des femmes, mais remplir le rôle de femme qui ne peut pas être rempli par quelqu'un d'autre. On voit très bien, dans une famille dans laquelle l'homme a disparu ou la femme a disparu, mais qu'il manque quelque chose, il manque quelque chose pour l'éducation des enfants. Donc ne tombons pas, bien entendu, dans toutes les horreurs qui sont enseignées aujourd'hui, justement, pour détruire la famille et lui faire croire que on ne naît pas homme ou femme et qu'on décide d'être homme ou femme, ce qui ne tient pas la route sur le plan biologique. Donc n'ayons pas peur. Si le bon Dieu a voulu nous créer comme hommes, sanctifions-nous comme hommes. Si le bon Dieu a voulu que nous soyons créés comme femmes, sanctifions-nous comme femmes. Et que la femme ne cherche pas à faire le travail de l'homme, mais remplisse son devoir d'État. Et que l'homme ne cherche pas à faire le travail de la femme, et remplisse son devoir d'État. Donc il doit y avoir une certaine virilité dans l'homme, une certaine féminité dans la femme, et pas l'inverse. Sinon on détruit la loi naturelle. Regardez, ouvrez les yeux, voyez un petit peu ce qui se passe. La France est devenue une véritable jungle. Pourquoi? Parce que les familles ont disparu. Alors, certains pères disent qu'en Judée, le jour même de la résurrection, notre Seigneur Jésus-Christ a apparu 6 fois. Alors, c'est assez difficile de savoir exactement combien de fois notre Seigneur Jésus-Christ est apparu aux apôtres et à ses disciples entre la résurrection et les jours qu'on suivit et l'ascension quand il monte au ciel. Bon, parce qu'il y a des compléments entre les différents évangélistes, les différents évangiles, on verra ça au fur et à mesure. Il y a parfois des mêmes apparitions qui sont expliquées sous deux angles différents, donc on ne sait pas toujours forcément très bien si c'est la même apparition ou deux apparitions différentes. Je viens de vous donner l'exemple avec Sainte Marie-Madeleine, donc qui voit l'ange alors qu'elle est avec une autre sainte femme, et dans d'autres textes évangéliques que nous verrons plus tard, bon, on voit Sainte Marie-Madeleine qui apparaît, à qui notre Seigneur Jésus-Christ apparaît alors qu'elle est toute seule. Donc il y a des compléments, et il faut pas opposer un évangile contre l'autre. Chaque évangile amène, comme si vous voulez, une pièce du puzzle. Donc il y a un puzzle, je sais pas comment dire en français, un puzzle ou un puzzle, et donc chaque évangile va amener certaines pièces du puzzle, et ces différentes pièces vont se mettre ensemble pour former une image qui sera visible. Mais tant que toutes les pièces du puzzle ne sont pas mises ensemble, il lui manque quelque chose. Donc d'après certains pères, le jour de la résurrection, notre Seigneur est apparu 6 fois. Mais il est d'abord apparu aux femmes, puis il va apparaître aux hommes. Versets 11 à 15 du chapitre 28 de Saint Matthieu. Lorsque les femmes furent parties, quelques-uns des gardes vinrent à la ville et annoncèrent aux princes et prêtres tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, s'étant assemblés avec les anciens, ayant tenu conseil, donnèrent une forte somme d'argent aux soldats, en leur disant, « Dites, ces disciples sont venus pendant la nuit et l'ont enlevé pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous le persuaderons et nous vous mettrons à couvert. » Les soldats, ayant reçu l'argent, agirent d'après ces instructions et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Ça, c'est un passage très important, bien médité. Les témoins de la résurrection de notre Seigneur, les premiers témoins de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ sont des païens, des soldats romains qui gardaient le tombeau. Ils ont été première loge. Bon, qu'est-ce qu'ils ont vu? On ne sait pas exactement, mais vraisemblablement, ils ont vu au moins l'ange qui avait roulé la pierre. Je vous l'ai déjà expliqué la dernière fois que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité avant que l'ange ne roule à la pierre. Il roule la pierre pour manifester la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, pour que les gens de l'extérieur puissent voir à travers l'ouverture de la porte dégagée par la pierre qui a été roulée, qu'ils puissent voir que notre Seigneur Jésus-Christ n'est plus au tombeau. Donc ces soldats sont les premiers témoins de la résurrection de notre Seigneur. Au lieu de se convertir et de dire, ben alors on s'est trompé, il avait raison, il avait annoncé sa mort, et donc il est vraiment Dieu, ils vont se faire acheter. Ils vont se faire acheter. Ils donnèrent, les autorités politiques donnèrent une forte somme d'argent aux soldats. Donc les autorités politiques, les supérieurs politiques de ces soldats vont acheter les consciences des soldats, et qui, pour l'argent, vont cacher la vérité. Donc on leur dit, vous n'avez qu'à dire à tout le monde, vous allez aller dans les bars et les cafés de la ville de Jérusalem, vous allez raconter à tout le monde que les disciples de notre Seigneur sont venus pendant la nuit, ils ont rêvé alors que vous dormiez. Saint Augustin qui fit remarquer, mais attendez, quand on dort, on ne voit rien. Donc si les soldats dormaient, comment ont-ils pu, alors qu'ils dormaient, voir que les disciples sont venus pendant la nuit pour prendre le corps de notre Seigneur? Ils n'ont rien vu du tout puisqu'ils dormaient. C'est des mensonges. Et donc ils ne dormaient pas. Et s'ils ne dormaient pas, ils auraient dû utiliser leurs armes pour empêcher les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ de venir prendre le corps. C'est absolument évident. Donc c'est un mensonge. Alors attention, parce que dans le monde moderne, c'est ça. Hein, on voit très bien dans l'histoire, surtout actuellement, comment la franc-maçonnerie, les ennemis de l'Église, vont acheter les catholiques, acheter les hommes politiques, acheter les donneurs d'ordre pour que tous ces gens se mettent à genoux directement devant la franc-maçonnerie. Et donc on leur donne de l'argent, comme les chefs des soldats vont leur donner une forte somme d'argent, dit le texte de l'Évangile. Mais c'est pareil dans le monde moderne. On va être acheté. Ou être acheté, c'est ce que fait la franc-maçonnerie quand elle veut obtenir la coopération de quelqu'un. Qu'est-ce qu'elle donne? Des honneurs, de l'argent et de l'orgueil. Des honneurs, l'orgueil, l'argent. Bon. Si vous suivez les exercices, vous reconnaissez ici la méditation des deux étendards. Soit notre Seigneur, soit le démon. Alors, soyons pas étonnés si nous aussi on cherche à nous acheter. On va chercher à vous acheter. Voilà, on vous donne de l'argent, on vous donne du pain et des jeux, et taisez-vous. Voilà, prenez l'argent, prenez le pain, prenez les jeux, et surtout parlez pas. Taisez-vous, faites comme tout le monde, et soyez calme dans votre petit coin, prenez vos petits jeux vidéo pour occuper vos journées, et vous occupez pas, on s'occupe du reste. Eh bien, il faut pas être acheté, il faut refuser d'être acheté. On le voit très bien dans la veulerie des politiciens actuels, surtout en France, et qui sont tous achetés par les grandes multinationales, achetés par tous les ennemis de l'Église, et qui se taisent, parce qu'ils veulent l'orgueil, ils veulent l'argent, ils veulent les honneurs. On voit très bien aussi ça dans l'Église de Vatican II, à partir de la mort du pape Pie XII, donc au moment où il y a cette séparation de plus en plus clair qui s'effectue entre ces deux églises, l'église catholique d'un côté et l'église de Vatican II de l'autre, comment les membres de l'église sont tous pratiquement achetés avec Vatican II, tout le monde se tait, ils sont achetés parce qu'ils veulent sauver leur carrière ecclésiastique, ils veulent sauver leur avenir, être sûr qu'ils obtiennent les postes qu'ils convoitent, et ils sont achetés. Et bien c'est pareil pour les catholiques en général, les laïcs aussi sont achetés par le monde. Prenez l'argent, on vous donne une somme d'argent, et vous direz que les disciples sont venus pendant la nuit, qu'ils ont enlevé le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc tout ce qu'il a raconté, ce sont des blagues, c'est pas vrai, c'est faux, donc notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ne soyons pas achetés. Bon, c'est vrai que c'est de plus en plus difficile, surtout pour les jeunes, qui sont systématiquement achetés maintenant par les puissances de ce monde. On leur demande qu'une seule chose, c'est de se taire. Mais il faut savoir parler. Rappelez-vous, les apôtres même, qui sont capturés par les autorités politiques après la résurrection de notre Seigneur. Et les autorités politiques, qu'est-ce qu'elles demandent aux apôtres? Il faut arrêter de prêcher ce nom, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Taisez-vous. Et on vous laisse repartir, mais taisez-vous. Et qu'est-ce que répond Saint-Pierre? Qu'est-ce que répondent les apôtres? Non possumus non loqui. Nous ne pouvons pas ne pas parler. Alors il va te faire flageller. On va les flageller. Et les apôtres sont tout contents d'avoir commencé à souffrir pour notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est ce qu'on va nous dire aussi. Vous aussi, taisez-vous, ne parlez pas. Il faut répondre la même chose que Saint-Pierre. Non possumus non loqui. Nous ne pouvons pas ne pas parler. Et même si on nous flagelle, même si la persécution tombe sur nous, eh bien, il faut continuer de prêcher notre Seigneur Jésus-Christ. Les soldats auraient donc laissé échapper, les Juifs auraient perdu le corps de Jésus, mais si les disciples l'ont enlevé, ce n'est point furtivement, mais par la foi. Ce n'est point par fraude, mais par leur vertu. Ce n'est point par écrit, mais par leur sainteté. Ils l'ont enlevé plein de vie, et non comme une victime de la mort. Vous voyez, donc, les apôtres refusaient d'être achetés par les soldats romains. Ils ont envoyé des Juifs et donc vont garder notre Seigneur Jésus-Christ avec eux. Au contraire, ceux qui sont achetés, eh bien, vont devenir des instruments de mort. C'est à ce prix, disent les pères, qu'on achète le silence sur la résurrection et le mensonge de l'enlèvement du corps, parce qu'en effet, la gloire du monde qui consiste dans l'estime et le désir de l'argent est une négation de la gloire de Jésus-Christ. On ne peut pas, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Ou on adore le premier et on haït le second, ou on haït le premier, on adore le second. Personne ne peut adorer Dieu et le monde, et c'est ça qu'il faut expliquer à vos enfants. Au lieu d'aider vos enfants à avoir une petite vie bien tranquille dans le monde, il faut les préparer au grand combat. Le grand combat, c'est quoi? C'est le combat contre l'esprit du monde, le combat contre la liberté, l'égalité, la fraternité révolutionnaire. C'est ça le combat du catholicisme. Pourquoi? Parce que les conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, les 10 commandements du bon Dieu sont absolument incompatibles avec la trilogie révolutionnaire de liberté, égalité, fraternité. Donc tous ceux qui font abus de l'argent du temple ou de tout ce qui doit servir à l'usage de l'Église pour satisfaire leurs désirs ou leurs passions sont semblables aux scribes et aux prêtres qui achètent à prix d'argent le message et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne nous laissons pas acheter et ayons le courage de prêcher ce qu'il faut prêcher. On a tellement de gens autour de nous qui ont été achetés. Et voilà, on vous donne de l'argent, taisez-vous. Vous n'avez rien vu. Passez votre chemin, il n'y a rien à signaler. Et, au contraire, il suffit parfois d'une personne qui refuse d'être achetée et la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ sera transmise aux générations futures. On voit très bien aujourd'hui, il y a très très peu de gens qui ne sont pas achetés, qui n'ont pas accepté d'être achetés par le monde moderne. Et donc la foi se réduit de plus en plus à une dimension domestique, comme disait le cardinal Pie, une simple dimension domestique avec quelques familles qui gardent la foi ici et là. Donc, si nous satisfaisons, c'est la partie importante expliquée par les pères, si nous satisfaisons nos désirs et nos passions, nous devenons semblables aux scribes et aux prêtres qui sont achetés à prix d'argent, qui achètent à prix d'argent le mensonge et le sang de Jésus-Christ. Vous savez, il faut réfléchir, hein, si Saint-Pierre a trahi notre Seigneur Jésus-Christ, si tous les apôtres, tous les disciples et les saintes femmes ont perdu la foi, je ne suis pas plus malin qu'eux, hein. Je risque bien de faire la même chose sans la grâce du bon Dieu. On avance en bas de la page 39 avec les versets 16 à 20 du chapitre 28 de Saint Matthieu. Nous arrivons lentement à la fin de cet évangile. Or, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait indiquée, et le voyant, ils l'adorèrent. Cependant, quelques-uns eurent des doutes. Et Jésus s'approchant, leur parla ainsi, « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et leur enseignant, observez tout ce que je vous ai commandé, voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. » Donc c'est l'envoi des apôtres. Notre Seigneur Jésus-Christ donc va apparaître, le texte utilise le mot disciple, mais en fait ce sont les apôtres, les 11 apôtres, puisque Judas s'est pendu. Et donc va rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. Donc imaginez un petit peu, méditez sur la première rencontre des apôtres avec notre Seigneur Jésus-Christ après la résurrection, la confusion des apôtres en même temps. leur joie immense de retrouver leur maître. Ils sont tous tombés à genoux, notre Seigneur, c'est sûr, pour demander pardon, pour leur lâcheté pendant la Passion. Et notre Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'il va leur donner un grand sermon sur la nécessité de la force? Non, il la pardonne tout de suite. Et non seulement il la pardonne, mais il va même les envoyer comme apôtres dans le monde entier pour convertir le monde. Celui qui sera baptisé, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Allez, enseignez, baptisez. Allez, donc le début de la mission, partez vers le monde, partez vers les païens, enseignez, c'est tout le ministère, le magistère ecclésiastique. Les baptisants, c'est le ministère. Magistère, ministère, gouvernement, les trois fonctions des ministres de notre Seigneur Jésus-Christ. Magistère, c'est l'enseignement. Ministère, c'est la sanctification. Le gouvernement, pour établir le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a trois étapes. La première étape, c'est l'enseignement. On ne baptise pas des gens qui ne sont pas formés. Il faut donner des sacrements, bien sûr, mais il faut donner des sacrements, des âmes proprement disposées. Et donc, on commence par le magistère, l'enseignement. Puis le ministère, on donne les sacrements. Et la troisième étape, c'est le gouvernement. Une fois que les sacrements sont donnés, une fois que les catholiques ont retrouvé la force donnée par les sacrements, à ce moment-là, on va pouvoir établir le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les apôtres sont partis dans un monde complètement païen qui ressemble beaucoup au monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui est devenu un monde complètement païen. Et là, ils vont prêcher notre Seigneur. Ils vont prêcher notre Seigneur et ils vont transformer ce monde païen en règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, dans lequel notre Seigneur Jésus-Christ sera vraiment reconnu comme roi. N'oubliez pas la définition de Mgr Gaume de la Révolution, la haine formelle de toute société dans laquelle l'homme n'est pas reconnu comme roi et Dieu tout ensemble. Donc, au lieu de suivre la révolution qui reconnaît l'homme comme roi et Dieu, nous allons suivre notre Seigneur Jésus-Christ qui est le seul roi et le seul Dieu. Et donc, il faut vraiment méditer là-dessus. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ va donner d'autres passages parallèles des autres évangiles. Il expliquait qu'à cet instant-là, en fait, notre Seigneur va donner aux apôtres, aux évêques, aux premiers évêques de l'Église catholique, puisque les apôtres ont été ordonnés prêtres et consacrés évêques le jeudi saint, donc il va leur donner le pouvoir de confession. On voit très bien qu'il y a deux étapes. Jeudi saint au soir, il y a le premier pouvoir qui est donné. Notre Seigneur Jésus-Christ déjà marque les âmes de ses apôtres du caractère sacerdotal, mais ils n'ont pas encore tous les pouvoirs. Il leur manque le pouvoir de confession qui va être donné plus tard, après la résurrection. Et donc là, notre Seigneur Jésus-Christ va souffler sur eux et va leur donner le pouvoir de pardonner les péchés, de retenir les péchés à ceux, de retenir sur au ciel le pouvoir pour. Les apôtres vont pouvoir littéralement obliger Dieu à retenir les péchés qui sont retenus par les apôtres sur la terre et pardonner les péchés qui sont pardonnés, qui sont enlevés par les apôtres sur la terre. Et c'est le début de l'Église, le début du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les apôtres vont transformer une jungle en un temple chrétien. Il faut voir les transformations de la société. Quand on voit par exemple la société avant la conversion de Constantin le Grand en 313 à Rome, avant la conversion de Constantin, donc c'est les persécutions de Dioclétien, et puis conversion d'empereur sous l'influence de sa mère, Sainte Hélène. Et à ce moment-là, c'est le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ qui démarre. C'est tous les catholiques qui sortent des catacombes, puisque le sang des martyrs a été une semence de chrétienté. Les grands palais romains sont transformés en églises, sont transformés en abbatiales, sont transformés en cathédrales. Les membres de la haute société romaine, les sénateurs et tous ces gens-là, beaucoup se convertissent et vont devenir, ils étaient déjà en autorité politique, ils vont avoir l'autorité religieuse, ils vont être en général ordonnés prêtres, consacrés évêques et partir à la face du monde pour prêcher l'évangile. Et la première chose qu'ils font quand ils arrivent, c'est de détruire le règne du démon. C'est Cortés qui arrive, qui n'est pas évêque, c'est un laïc, mais Cortés qui arrive au Mexique, dans un pays dans lesquelles la religion aztèque massacrait les jeunes, massacrait les enfants, massacrait les femmes pour donner du sang frais pour abreuver le dieu soleil. Mais qu'est-ce que fait Cortés quand il arrive? D'abord, il commence par brûler ses navires pour être sûr que les soldats restent à leur poste et ne s'enfuient pas pour retourner en Europe. Et puis, quand il voit les amoncellements de cadavres sur les pyramides, les pyramides de Teotihuacan, si mes souvenirs sont exacts, près de Mexico, il voit le sang humain qui couvre toutes les marches des pyramides. Il monte au sommet de la pyramide. Au sommet de la pyramide, il y avait un faux dieu, une statue d'un faux dieu, serpent à plumes. Et qu'est-ce que fait Cortés? Il va casser la statue, il l'envoie promener, il la déboulonne de son socle et il se précipite au pied de la pyramide en rebondissant sur les marches. Elle se disloque complètement et à la place du faux dieu, qu'est-ce qu'il va mettre? Il va mettre une statue de la Très Sainte Vierge Marie. Vous voyez? Et c'est le début de la conversion du Mexique. Qui adorait le démon, qui va adorer le vrai Dieu. Et c'est la même chose pour tous les pays de l'Europe. Donc on voit très bien, c'est la grande phrase, aller enseigner, baptiser. Et il faut mettre en parallèle, encore une fois, cette phrase ici qu'on trouve au verset 19, chapitre 28 de Saint Matthieu, avec d'autres passages qu'on verra plus tard dans les autres évangiles, où il est bien dit, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Les modernistes, ils n'aiment pas cette phrase, pourtant elle a été écrite par notre Seigneur. N'oublions pas aussi ce mot, notre Seigneur Jésus-Christ, donc il leur enseigne, il leur demande d'enseigner, magistère, baptiser, ministère, en leur enseignant, observez tout ce que je vous ai commandé, et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Et Père de Guise explique bien que cette phrase a été adressée à Saint Pierre, le premier pape, qui va devenir premier pape, ou qui est déjà devenu premier pape, et notre Seigneur promet qu'il sera avec Saint-Pierre, donc avec les successeurs de notre Seigneur, les successeurs de Saint-Pierre, donc avec les papes qui sont vicaires de notre Seigneur Jésus-Christ, qui sont les successeurs de Saint-Pierre, les représentants de notre Seigneur Jésus-Christ, dont le rôle est de garder le dépôt de la foi, il sera avec eux tous les jours. Pas simplement quand dans le magistère extraordinaire, ils définissent quelque chose. Non, tous les jours, même dans le magistère ordinaire. Ce sont des choses très importantes de bien comprendre cet envoi des apôtres, notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cette raison, on va donner à Saint-Pierre un don extraordinaire, le don de l'infaillibilité. Notre Seigneur Jésus-Christ va mettre une partie de sa divinité littéralement dans le pape, qui devient le représentant direct de notre Seigneur Jésus-Christ, qui va avoir le don d'infaillibilité. Et cette phrase du verset 20, chapitre 28 de Saint Matthieu, « Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles », cette phrase peut être mise en parallèle avec un enseignement du pape Pie XI dans l'encyclique Mortalium Animos contre l'écuménisme moderne. Voilà ce que dit le pape Pie XI. « Le magistère de l'Église établi ici-bas d'après le dessein de Dieu pour garder perpétuellement intact le dépôt des vérités révélées et en assurer la connaissance aux hommes s'exerce chaque jour par le pontife romain, les évêques en communion avec lui. » Donc, notre Seigneur Jésus-Christ a promis que les forces du mal ne s'exerceront point contre son Église, même si son Église se réduit à une peau de chagrin, comme c'est le cas actuellement, eh bien, il sera avec le pape tous les jours. Et donc, il ne faut pas se décourager, même si depuis la mort du pape Pie XII en 1958, nous sommes malheureusement orphelins d'autorité, puisque les bandits qui prétendent être sur le trône de Pierre aujourd'hui, depuis la mort du pape Pie XII en 1958, donc bradent complètement tout ce qu'a institué notre Seigneur Jésus-Christ, détruisent l'Église catholique, détruisent la foi catholique, détruisent les familles, détruisent tout. Notre Seigneur Jésus-Christ reste chaque jour avec son Église, même s'il n'y a plus de pape depuis 1958. Notre Seigneur Jésus-Christ est toujours Dieu, attention. Et donc, cette infaillibilité du pape, qui va entraîner l'infaillibilité de l'Église, parce que l'Église répète ce que le pape a déclaré infaillible, ce que quand elle garde le dépôt de la foi, quand on enseigne ce qui a toujours été enseigné par l'Église, il y a cette protection d'infaillibilité. Lorsqu'une maman explique à son petit qu'il y a trois personnes dans la Sainte Trinité, d'un certain côté, elle est infaillible. Lorsqu'un papa explique au catéchisme à son enfant que notre Seigneur Jésus-Christ vient sur l'autel avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, le papa est infaillible aussi. Parce qu'il répète ce qui a toujours été enseigné par l'Église. Et le fait que notre Seigneur Jésus-Christ soit avec son pape tous les jours, c'est l'enseignement de l'Église. Et il n'est pas simplement avec le pape dans son magistère extraordinaire, mais aussi dans son magistère ordinaire. Je vous donne le texte qu'on retrouve dans la Constitution dogmatique sur la foi catholique du Vatican I, sous Pie IX. Donc, Vatican I, c'est 1870. Voilà ce que dit, ce qu'enseigne l'Église. Ce sont des textes infaillibles. On doit croire de foi divine et catholique toutes les vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu, écrites ou transmises par la tradition, et que l'Église, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel, propose comme divinement révélé. Donc, l'infaillibilité s'exerce pas simplement dans le jugement du magistère extraordinaire, du jugement solennel, mais aussi dans le magistère ordinaire et universel. Donc attention, le pape est infaillible, soit quand il parle comme pape tout seul, ce qu'on appelle le magistère pontifical, soit ordinaire, soit extraordinaire, selon le degré le degré de dignité, si vous voulez, du texte, hein, le pape est infaillible. C'est le même enseignement, on peut l'expliquer comme ça, c'est le même enseignement dans le magistère ordinaire, le magistère extraordinaire, ce ne sont pas deux enseignements différents. Donc le pape est infaillible quand il parle sur la foi et les mœurs avec intention d'obliger toute l'Église, soit dans son magistère pontifical quand il parle seul, soit de façon ordinaire, soit de façon extraordinaire, mais aussi dans son magistère universel, c'est-à-dire quand il parle avec tous les évêques unis à lui, soit de façon ordinaire, soit de façon extraordinaire. Vous voyez ? Et notre Seigneur Jésus-Christ est tous les jours avec son Église. Même aujourd'hui. Pas oublier ça. Il faut ne pas perdre cette foi en l'Église, malgré le fait que l'Église catholique se réduit à une peau de chagrin. N'oublions pas que toutes ces abominations qui sont maintenant enseignées constamment par les pseudo-prêtres, les pseudo-évêques de l'Église du Vatican II, ce n'est pas l'Église catholique. L'Église catholique, c'est l'Église fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, une sainte catholique et apostolique. Et même s'il n'y a plus de pape depuis 1958, l'Église est toujours là, toujours une Église. Alors, voyons un petit peu comment les pères de l'Église expliquent ces choses-là. Le Seigneur apparaît, page 40 sur le polycopier. Le Seigneur apparaît à ses disciples sur une montagne. Dans d'autres passages parallèles des évangiles, il apparaît sur une montagne pour signifier que ce corps qu'il avait pris en naissant de la terre, origine commune de tous les hommes, avait été par sa résurrection élevé au-dessus de toutes les choses terrestres. Et aussi pour apprendre aux fidèles que pour contempler les sublimes mystères de sa résurrection, il faut s'efforcer de quitter les voluptés basses et charnelles et s'élever jusqu'au désir des choses du ciel. Pour garder la foi, il faut se couper des choses de ce monde. On ne peut pas adorer Dieu et Mammon en même temps, c'est pas possible. Donc, celui qui veut suivre notre Seigneur Jésus-Christ doit se couper des choses basses et terrestres, des voluptés basses et charnelles, disent les pères. Jésus précède donc ainsi ses disciples en Galilée parce qu'il est ressuscité comme les premiers de ceux qui dorment. Il va réveiller les apôtres. Alors, nous trouvons dans les quatre évangélistes que le Seigneur s'est manifesté par 10 fois différentes. Après sa résurrection. Donc le Seigneur, après, d'après les évangiles, s'est manifesté par 10 fois après sa résurrection. Voilà les différentes fois. Aux femmes, d'abord, qui visitaient son tombeau. Et une seconde fois, ces mêmes femmes, parce qu'elles revenaient de visiter le sépulcre à Saint-Pierre, puis aux 2 disciples qui allaient au bourg d'Emmaüs. La 5e fois, à plusieurs autres disciples, parmi lesquels ne se trouvait pas Saint Thomas. Dans la ville de Jérusalem, enfin Saint Thomas lui-même au milieu des autres disciples. près du lac de Tibériade, enfin, septième fois, sur la montagne de Galilée, d'après saint Matthieu. La neuvième au rapport de saint Marc, dans le dernier repas qu'il fit avec ses disciples, et après lequel il ne devait plus manger avec eux sur la terre. Et enfin, non plus sur la terre, mais lorsqu'il s'élevait sur une nuée et montait ainsi au ciel, dernière manifestation que rapportent saint Marc et saint Luc. Nous verrons tout ça au fur et à mesure de l'explication des autres évangiles. Il reste trois évangiles à expliquer, donc saint Marc, saint Luc et saint Jean. N'oublions pas qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans les évangiles. Tout ce qu'a fait Jésus n'a pas été écrit, comme le déclare saint Jean, car Jésus eut de fréquentes relations avec ses disciples pendant les 40 jours qui précédaient son ascension, entre Pâques et l'ascension, 40 jours. Et de quoi ils ont parlé? Pratiquement rien dans l'évangile. Les actes des apôtres, il est dit qu'ils parlaient du royaume des cieux. Voilà, il n'y a pas d'explication. La tradition est là pour nous expliquer que notre Seigneur Jésus-Christ, pendant ces 40 jours, justement, a expliqué toutes les choses nécessaires à pratiquer pour l'Église, pour les catéchismes, pour les sacrements, pour la Sainte Messe. Tout ça est expliqué par notre Seigneur Jésus-Christ aux apôtres. Car le Fils de Dieu a communiqué au Fils de la Vierge, Dieu à l'homme, la divinité à la chair, ce qu'il possédait de toute éternité avec son Père. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va transmettre à son Église une partie de sa divinité. L'Église est divine, attention. Concluant de là, disent les Pères, combien la substance de la Trinité est indivisible et que le Père est vraiment le Père du Fils, le Fils vraiment le Fils du Père et l'Esprit Saint réellement l'Esprit du Père et du Fils qui est Dieu et aussi de la sagesse et de la vérité, c'est-à-dire du même Fils de Dieu. Alors, saint Augustin donne le sens allégorique. Donc, je vous l'ai déjà donné en partie. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée. Donc, il explique la même chose qui a déjà été expliquée par d'autres pères. Le mot Galilée signifie la transmigration, car la grâce du Christ allait passer au peuple d'Israël et aux gentils. Donc, je vous précéderai en Galilée, car beaucoup ne croiront pas les apôtres qui prêchaient l'évangile avant que le Seigneur lui-même n'ait préparé leur chemin dans le cœur des hommes qui le verront en trouvant les membres du Christ. Donc le rôle des apôtres, ça va être de préparer les cœurs des païens à l'arrivée de la grâce. Et tout un travail de préparation. Le mot Galilée, d'après d'autres pères, signifie aussi révélation, représente aussi le paradis et la vision béatifique. Cette révélation sera la vraie Galilée, nous serons comme lui, car nous le verrons là comme il est, ce sera le passage béni de ce monde à l'éternité, si nous embrassons ses commandements pour mériter d'être assis à sa droite. Nous aussi, nous participerons à la gloire de l'Église, à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est selon la tradition de l'Église, disent les pères, telle est la forme du sacrement de baptême. Je vous baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, par lequel nous professons notre foi la Sainte Trinité, la divine unité, disant au nom du Père, au singulier et pas au nom au pluriel, pour bien montrer que les trois personnes sont consubstantielles. C'est pour expliquer donc le passage du verset 19. Enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On voit très bien là, dans le texte de saint Matthieu, les trois personnes de la Sainte Trinité. Il y a des personnes qui disent que la Sainte Trinité n'existe pas dans l'Évangile. Il n'y a pas de manifestation directe de la Sainte Trinité. Mais attendez, et ce verset 19 le dit expressément, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce mystère, dit saint Isidore, est appelé la Trinité car l'un tout entier est composé de trois comme une triple unité ressemblant à la mémoire, l'intelligence et la volonté, car l'Esprit a en lui-même une certaine image de la divine Trinité, car comme ils sont trois, ils sont un. Les dons du Saint-Esprit et du Christ sont les mêmes car la divinité de chacun et leur opération sont la même entité. Et nous avons cette Sainte Trinité en nous. Donc, à chaque fois que nous sommes en état de grâce, et quand nous perdons l'état de grâce, nous perdons la Sainte Trinité, attention. Nous perdons ce don extraordinaire que nous a donné notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, les derniers textes ici des Pères, au sens moral, le Christ est dans et avec l'âme fidèle, jusqu'à la fin de la vie, accordant ce grand don de la persévérance par lequel l'élu est conduit au paradis. Et tous ceux qui ont notre Seigneur Jésus-Christ dans leur âme, au moment de la mort, au moment où le changement ne devient plus possible, eh bien, vont continuer cette union avec notre Seigneur Jésus-Christ au paradis. Au contraire, ceux qui sont séparés de notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils meurent dans l'état de péché mortel, après la mort, c'est fini, il n'y a plus de changement, alors qu'ils ne pourront pas aller au ciel et tomberont en enfer. Alors, un passage important ici des Pères qui explique que le Christ est dans l'âme sainte politiquement comme un roi dans son royaume, en tant qu'il la dirige et la guide droitement sur les lois de la justice. L'âme dirige le corps, l'âme doit être unie au corps, évidemment, parce que l'âme est la forme du corps. Économiquement, donc le Christ dans l'âme sainte aussi économiquement comme le Père dans sa maison, dans sa famille, qu'il dirige avec sagesse. Il est comme le conducteur dans un chariot, comme Élie qui fut transporté au ciel devant Élisée dans un chariot de feu. Le Christ est dans l'âme sainte aussi éthiquement, avec raison et prudence, laquelle dirige toutes ses actions selon les règles de la divine raison et de la loi éternelle qui est dans l'Esprit de Dieu. Le Christ est dans l'âme sainte physiquement, car l'âme est dans le corps comme étant l'âme de l'âme. Celui qui donne la vie et de la grâce pour que l'âme ne vive pas comme un animal d'une vie toute charnelle, mais d'une vie spirituelle et divine. Donc je pense que là il y a une faute dans ma traduction, ça doit être car l'âme est dans le corps, parce qu'elle donne justement la vie au corps. Et enfin le Christ est dans l'âme sainte, comme il est comme un feu divin enflammant l'âme avec la flamme de la charité, il est dans l'âme comme le soleil dans le monde, donnant du fruit par les bonnes œuvres. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, qui illumine notre âme par la grâce, doit être le soleil de notre vie, pas simplement pour nous, mais pour que l'âme devienne elle-même un soleil. L'âme devient un petit miroir qui reflète la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui reflète la lumière de la Sainte Trinité. Et l'âme de l'homme qui vit en état de grâce, du catholique qui vit en état de grâce, devient celle de la terre, la lumière du monde. On reflète notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qu'ont fait tous les martyrs. Martyrs, c'est témoins. Ils ont été témoins de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Les persécuteurs ont cru qu'ils arriveraient à éliminer complètement les chrétiens, ils n'ont pas pu. Et le sang des martyrs, selon le mot tertulien, est devenu une semence de chrétienté. Enfin, les derniers passages des Pères, page 41 du polycopié. Ô sage et sainte âme, allez rencontrer votre Dieu avec amour et désir. Votre Jésus demande à être avec vous. Alors ne désirez autre chose que d'être avec Jésus. Sa joie est d'être avec vous, que votre joie soit d'être avec lui. Souffrez donc d'être dirigé et guidé par lui, comme un royaume qui se doit d'être dirigé par son roi, une armée par son chef, une diligence par son conducteur, la volonté par la raison, le corps par l'âme et le monde par le soleil. Dans ce texte de saint Augustin reprend tout ce que je viens d'expliquer. Le Christ est dans l'âme sainte politiquement, économiquement, éthiquement, physiquement, comme un feu divin qui enflamme l'âme. Et saint Augustin conclut notre étude de l'évangile selon saint Matthieu, d'après les Pères. Vous êtes suffisant pour Dieu, que Dieu soit suffisant pour vous. Vous voyez que cette étude des quatre évangiles, nous avons terminé maintenant l'étude du premier évangile, l'évangile selon saint Matthieu, que cette étude justement enflamme notre cœur avec les vérités données par les Pères pour nous faire comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Nous sommes dans la même situation que les apôtres, tout seuls, 12 hommes, même pas 11 hommes, bon, bientôt 12, puisque saint Matthias va remplacer Judas. Ils vont être envoyés casse-pipe, littéralement. Ils vont tous mourir martyrs, sauf saint Jean. Mais ça va être l'évangélisation du globe, l'évangélisation apostolique du globe. Et le bon Dieu va leur donner le don des miracles, va leur donner des dons extraordinaires pour qu'ils puissent annoncer notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que hors dehors de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Vous voyez, alors que ces explications des Pères illuminent notre cœur, justement. Donc je vous conseille encore une fois, maintenant qu'on a terminé le premier évangile, donc l'évangile selon saint Matthieu, prenez le temps de relire complètement le polycopié le polycopier dans le site d'Anne Marie, sous le titre Exégèse des évangiles, vous avez la polycopie générale. Et ensuite, j'ai remis le polycopier par groupe de cinq chapitres. Vous avez un polycopier général. Donc, relisez, prenez votre temps, prenez ça comme lecture spirituelle, je vous conseille. Relisez tous les commentaires des pères de l'évangile selon saint Matthieu. Bon, ça va vous prendre un certain temps parce qu'il y a pas mal de pages. Mais pour justement que notre esprit soit imprégné par l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne pensez pas par vous-même, pensez tel que les pères de l'Église ont toujours pensé, vous conserverez la foi. Et je vous l'ai déjà dit, j'espère que cette étude des évangiles à partir des pères vous donne augmente votre foi et aussi vous fasse comprendre la richesse des pères de l'Église. Regardez simplement pour expliquer un évangile, il m'a fallu 2 ans, à raison d'une conférence par semaine, et il y a, ça c'est la conférence numéro, je ne dis pas de bêtises, numéro 94. Donc, eh bien, la prochaine fois, eh bien, on commencera l'évangile selon saint Marc. Nous allons terminer par une prière.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme était au commencement, maintenant, toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il, nos saints anges gardiens, veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, Saint Jérôme, priez pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.